Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Rejoignez le débat, nous dit le programme des festivités des 40 ans de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, où notre invité de ce matin est aussi directeur de recherche. Décidément, bonjour, donc, et rebonjour Antoine Yoncan. Bon anniversaire pour les 40 ans de l'EHESS. Vous, le débat cette semaine, vous ne faites pas que le rejoindre, vous sautez dedans à pieds joints avec Le Travail et la Loi, que vous publiez chez Fayard, co-écrit avec Robert Badinter. Un tout petit livre, l'air de rien, de 70 pages, mais un vrai gros pavé dans la mare que vous lancez. Vous constatez le mal qui ronge la société française, le chômage de masse et la vague législative qui l'a accompagné. Certains disent même l'inflation législative, le tsunami législatif. Vous critiquez un code du travail devenu obèse et dont les principes fondamentaux sont noyés dans la masse des articles. Et vous proposez donc une déclaration des droits du travail énonçant clairement ces principes. Mais le fait que cette initiative qui lie le chômage et complexité du code du travail vienne de deux personnalités de gauche a un peu surpris, étonné, puisque vous semblez d'ailleurs avoir davantage réjoui Pierre Gattaz, qui a salué chaleureusement votre initiative, tandis que les syndicats semblent avoir peu réagi, ou ont peu réagi pour l'instant sur le sujet. Quelques réactions tout de même, mais pas tant que ça. Alors faut-il s'attaquer aux droits du travail pour combattre le chômage? Est-ce une démarche politique? Et comment voulez-vous, au fond, la concrétiser? Quel débouché aura-t-elle, cette démarche-là? Et comment recréer un lien entre les citoyens et un droit devenu si complexe? Et puis, nous profiterons de la présence d'un éminent juriste dans notre studio pour nous éclairer sur de nombreux sujets d'actualité, de droit, qui nous préoccupent aujourd'hui, qui posent question. La Cour européenne des droits de l'homme, il en a été question dans le journal d'Olivier Denré, la Cour européenne des droits de l'homme, vous le savez, a rendu début juin un arrêt sur le cas de Vincent Lambert. Et aujourd'hui même, la Cour de cassation tient une audience sur la condamnation de la France par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, sur le sujet de la GPA. Complexe donc dans l'illégalité envers la CEDH, le droit semble en ce mois de juin dans tous ses états. Et c'est avec vous ce matin, Antoine Yoncan, que nous essaierons d'en démêler les fils. Nous parlerons du droit du travail en deuxième partie d'émission et de votre livre. Et vous serez rejoint par une contradictrice qui a, me dit-elle, un peu de mal, mais qui va quand même trouver des moyens de vous contredire un petit peu ou de poser des questions. C'est Sandrine Foulon, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques et spécialiste de l'emploi, des ressources humaines et du dialogue social. Vous tombez à pic. Première question tout de même, Antoine Yoncan. Aujourd'hui, est-ce que le droit, question générale, si on vous lit bien dans le droit, le travail et la loi, est-ce que le droit est devenu trop complexe pour nous protéger comme on le souhaite?
Bien, on peut dire oui. Je pense que la grande question, c'est: est-ce que nos concitoyens s'approprient ou non la loi qui est supposée les protéger? Lorsque la loi est trop complexe, lorsqu'il n'y a pas d'intelligibilité de la loi, ceux qui sont les bénéficiaires de la loi ne se l'approprient pas. Et c'est un peu ce qui est en train d'advenir, c'est advenu au Code du travail depuis maintenant, je pense, quelques décennies. C'est un droit qui s'est éloigné de ceux qu'il est supposé viser. Et c'est un des mots...
Ouais, il devient contre-productif.
Mais c'est-à-dire, si vous voulez, la loi, ça ne marche jamais tout seul. Il faut que quelqu'un l'invoque, la mobilise, la demande qu'elle soit respectée. Pour ça, ça demande que la loi soit intelligible. Sans ça, vous ne savez pas ce que vous demandez, et vous ne demandez d'ailleurs rien. Vous restez quoi ? Vous attendez. Et donc il faut retrouver, au fond, à la fois une simplicité, des énoncés, sans changer le niveau des exigences, mais qui permettent à chacun de s'approprier ce que nous appelons les principes avec Robert Badinter. Donc des énoncés simples, généraux, et qui donnent le sens de ce que l'on fait.
Alors, en même temps, on entend ça et là, et c'est souvent des propos de comptoir, après tout, puisqu'il faut simplifier, Antoine Yoncan, on entend souvent qu'il y a trop de lois. Mais sans loi, il n'y a pas de démocratie.
Mais moi, je ne suis pas pour la disparition de la loi. Je ne sais pas du tout mon ambition. Au contraire, je veux restituer à la loi sa dignité.
Il y a trop de lois ou pas?
Ça dépend dans quel domaine. Ouais. Mais on peut dire qu'en droit du travail, on a atteint un degré qui permet de sonner un peu le tocsin. On légifère pour essayer d'obtenir un résultat à court terme. Alors on fabrique des ovnis législatifs, et en réalité le résultat on l'obtient jamais à travers cette ambition d'obtenir quelque chose par la loi. Donc il faudrait arrêter de penser que la loi peut procurer des résultats, et surtout des résultats à court terme. Il faut redonner à la loi cette sorte de légitimité qu'elle a perdue aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, alors, c'est-à-dire un paradoxe, une concurrence des lois, ou une concurrence même des droits, hein, entre ce qui est érigé, édicté par l'Europe, par rapport aux droits des nations, des États?
Évidemment, un facteur.
Et vous voyez où je veux en venir, on va évidemment évoquer la question de la GPA.
Bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous voulez, en plus, notre système juridique, enfin, notre droit est devenu d'une complexité particulière parce que la France est soumise, c'est normal, non seulement à son droit, mais au droit de l'Union européenne et au droit de la Convention du Conseil, des Conventions du Conseil de l'Europe. Et les juges, ils doivent articuler au minimum ces trois système de droit. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des affaires qui concernent à la fois la famille, le statut des enfants, l'équité dans les prestations familiales, etc., où le droit français est soumis, au fond, aux exigences d'un droit européen qu'il a contribué quand même à faire naître.
Oui, mais c'est d'où là le paradoxe, évidemment.
Ah, oui.
Alors, le 26 juin dernier, Antoine Liancan, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dit ceci: la France est condamnée pour avoir refusé de reconnaître les liens de filiation suite à des GPA, gestation pour autrui, à l'étranger. Trois mois plus tard, le 26 septembre, cette décision devient supérieure au droit national, mais le pouvoir politique, lui, prend une autre position. Manuel Valls, dès le 3 octobre 2014, dit exclure totalement la transcription automatique des actes étrangers et ainsi rejette la faute, ou se défonce, on va dire, sur le système judiciaire en laissant la procédure judiciaire suivre son cours. Se pose donc peu de temps après un problème de droit. Le 13 mai, le tribunal de Nantes, se basant sur l'arrêt de la Cour européenne, autorise une inscription à l'état civil et le parquet de Nantes fait appel et l'affaire remonte ainsi jusqu'à la Cour de cassation. Aujourd'hui, audience de la Cour de cassation, il devrait y avoir un revirement de jurisprudence. Le procureur de la Cour de cassation a d'ailleurs déjà annoncé dans la presse le 19 mai qu'il recommanderait, lui, l'inscription à l'état civil des enfants nés de la GPA. Alors je propose d'écouter deux focus par Irène Théry, vous le savez, la sociologue qui a présidé la commission Filiation, Origine et Parentalité, rapport remis l'an dernier, cité par la Cour européenne des droits de l'homme quand elle a condamné la France en juin 2014 pour son refus d'inscrire les enfants nés de GPA à l'étranger à l'état civil. Comment en est-on arrivé là? Premier thème, Irène Théry.
En juin 2014, il y a donc un an, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de son refus de transcrire à l'état civil français l'acte de naissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Nous avons été condamnés, nous n'avons pas fait appel, et donc depuis le 26 septembre dernier, le droit s'applique et normalement, nous devrions reconnaître cette filiation des enfants telle qu'elle existe dans le droit étranger, nous devrions la transcrire à l'état civil français. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là tout simplement parce que le gouvernement français n'a pas dit clairement comment il allait appliquer la jurisprudence de la Cour européenne, et même, pour tout dire, Manuel Valls s'est exprimé de façon très étonnante en disant « nous ne ferons pas de transcription automatique des actes de naissance étrangers ». Donc, le politique a semblé donner le signal d'une révolte contre la Cour européenne. Moi, je crois que c'est plus un mouvement de manche du politique, parce que le gouvernement sait très bien que on ne peut pas jouer avec les traités. Hein. Et donc, en gros, le politique a renvoyé à la justice le fait de savoir comment on allait finalement se conformer à cette jurisprudence. Et au bout d'un long feuilleton qui dure depuis maintenant presque un an, c'est la Cour de cassation qui va nous l'apprendre.
Antoine Liancan, un premier mot de commentaire.
Oui, le rappel d'Irène Théry est tout à fait clair. Elle a rappelé ce qui venait de se passer. Il y a eu un point, c'est que la condamnation de la France, on ne sait pas exactement jusqu'où elle va. Parce que est-ce qu'il faut transcrire toutes les filiations? Ou est-ce qu'on peut poser des conditions? C'est un peu la question que pose le procureur général. Parce que le procureur général, il souhaite que la transcription soit obligatoire lorsque la filiation à l'égard du père est établie.
Alors, c'est effectivement la question aussi que se posent beaucoup de gens et qui craignent, ceux qui sont très opposés à la GPA, que par exemple cet arrêt de la Cour européenne légalise hein, finalement, la GPA. C'est ce qu'elle ne fait pas, nous dit Irène Théry au micro d'Amélie Perrault.
Pour dire les choses simplement, l'arrêt de la Cour européenne sépare deux débats. L'arrêt dit, d'un côté, la France, ou tout pays, est souverain pour décider s'il va légaliser ou pas la GPA sur son sol. Ça ne regarde pas la Cour européenne, elle laisse à chaque État. Mais elle dit, et c'est un autre débat qu'elle sépare complètement, des enfants naissent dans les pays où c'est légal, et donc les ressortissants des pays qui ne l'autorisent pas doivent se comporter en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est sur ce point que nous avons été condamnés. La Cour a dit, la filiation est une part essentielle de l'identité de l'enfant. Il y a une atteinte à l'identité de l'enfant si on refuse de transcrire dans le droit national, dans le droit français par exemple, la filiation établie à l'étranger. Et donc, à gauche comme à droite, des mouvements se sont levés pour dire n'appliquons pas cet arrêt, il est horrible parce qu'il va nous obliger à légaliser la GPA. Donc, on a dit des énormités juridiques et le politique s'est dit « Oh là là, ne nous mêlons pas de tout ça, ça attise les passions » et a fait profil bas. Voilà l'explication. Je pense que le moment est venu maintenant de prendre, disons, le droit au sérieux et de considérer que ce qui est en jeu n'est pas la légalisation de la GPA. C'est même plus clair qu'avant que, justement, les questions sont séparées. L'enjeu est uniquement la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger.
Antoine Yoncan.
Oui, je trouve que l'exposé, la présentation d'Irène Théry est parfaite. Le problème n'est pas à l'heure actuelle et il n'est pas posé de savoir si la GPA, bien que certains réclament sa reconnaissance en France, la question que la Cour de cassation va aborder cet après-midi, c'est celle de savoir si une filiation qui est établie au terme d'une GPA à l'étranger doit donner lieu à une transcription à l'état civil en France pour permettre à ces enfants qu'il n'y a aucune raison de priver de leur identité quand ils sont présents sur le territoire.
Et non, c'est comme ça, la réponse est oui.
Je l'espère.
Professeur.
Je l'espère.
Et la question, encore, pardonnez-moi, et comment expliquez-vous du coup que finalement on voit bien que ce qui dérape, c'est la question politique, là, par rapport au droit. Encore une fois, que l'on soit de droite ou de gauche, il y a une manière, finalement, que le politique a de s'opposer à une Cour européenne de justice, une décision qui n'est pas très rationnelle, finalement.
Je pense que vraiment, la difficulté, elle vient de l'absence de pédagogie. Justement, Irène Théry, elle fait de la pédagogie comme il faut. Et la Cour européenne des droits de l'homme n'exige pas de la France qu'elle légalise la GPA sur son territoire. Elle exige de la France qu'elle reconnaisse que ses enfants qui ont été conçus à l'étranger puissent revendiquer leur état civil en France. Ce sont deux questions vraiment distinctes. Et si la politique a un sens, c'est bien d'aider les citoyens à comprendre qu'il y a une différence.
D'autant que, alors paradoxe supplémentaire si j'ose dire, pour compléter le dossier, d'autant que la plupart des GPA du coup dites françaises sont évidemment faites à l'étranger puisque la GPA en France est interdite. Troisième argument d'Irène Théry au micro d'Amélie Perrault.
Beaucoup de gens ne le savent pas. Il est illégal de faire une GPA en France, c'est absolument clair. Mais aller faire une GPA dans un pays où c'est légal, c'est tout à fait permis. Quand on connaît les situations, on sait qu'on ne peut pas dire la GPA, si vous voulez, parce que à travers ce mot, on va mélanger les situations les plus opposées, des cas d'instrumentalisation assez sordides de femmes pauvres qui existent absolument dans le monde, mais aussi des cas qui sont tout à fait conformes à toutes nos valeurs. Donc, ces enfants qui sont nés de GPA, ils ont des parents à l'étranger. Donc, on va dire, est-ce qu'ils ont beaucoup de problèmes? Bien, ils ont des problèmes à cause du politique. Par exemple, des enfants qui n'ont toujours pas la nationalité française, alors que c'est la loi. Donc, ils sont soumis, on va dire, très fortement à l'arbitraire de leurs interlocuteurs selon les circonstances. Pendant très longtemps, par exemple, il y a eu des notaires qui refusaient de considérer que l'enfant pouvait être héritier de ses parents parce que, justement, il n'y avait pas eu la transcription en droit français. Mais, en gros, voilà, ils ont une filiation, ils sont les enfants de leurs parents. Alors, certains nous disent aujourd'hui, pourquoi transcrire en droit français? Ils n'en ont absolument pas besoin. Ça rappelle la façon dont la société a traité les enfants bâtards, les enfants adultérins autrefois, en faisant des sortes de parias sociaux pour les punir des fautes qu'on reproche à leurs parents, fautes qui ne sont d'ailleurs même pas avérées en l'occurrence.
Voilà, Irène Théry au micro d'Abélie Perrault. Antoine Yoncan.
Mais j'espère que la sagesse triomphera là. Mais je trouve que ce qui est important dans ce genre de débat, c'est de ne pas justement tout confondre. Le débat sur la GPA en France, c'est un débat qui a déjà commencé. Il va se poursuivre. Il faut laisser à ces enfants pleinement exercer leurs droits sur le territoire français. Comme vous le dites, surtout parce que pour certains, pas pour tous bien sûr, ce sont des parents français qui ont été évidemment utilisés une gestation pour autrui à l'étranger, et ça serait absolument vraiment un acte de, non je ne veux pas dire de barbarie parce que le terme serait excessif, mais ça serait un acte de méconnaissance vraiment de ce que c'est que l'épanouissement d'un enfant si on venait dire ces enfants n'ont pas en France un état civil établi.
Mais est-ce que ça pose aussi, donc en creux, je vous repose la question, hein, que certains s'inquiètent au fond de ce que ce serait la Cour européenne, hein, qui s'imposerait dans le droit national. Tenez, sur l'affaire et le cas Vincent Lambert par exemple, on a pu lire dans Libération, la Cour européenne de justice autorise l'arrêt des soins de Vincent Lambert.
Oui, c'est pas...
En réalité, elle n'autorise, elle
non,
se prononce pas.
Rien du tout.
Alors,
La Cour européenne, elle se prononce sur la compatibilité d'une solution française avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle a dit dans l'affaire Vincent Lambert que le droit français tel qu'il avait été appliqué par le Conseil d'État était absolument compatible avec les valeurs européennes partagées. Bon, il ne faut pas oublier quand même que la Convention européenne des droits de l'homme, 1950, elle a été conçue notamment par la France. La France est un des pays qui l'a promue. Et donc, quand on dit qu'il y a un contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme et du juge européen, c'est en réalité un contrôle qui est fait au nom de valeurs auxquelles nous croyons profondément.
Antoine Liancan, invité des matins de France Culture, il sera rejoint donc dans un quart d'heure par Sandrine Foulon pour répondre à la question « Comment faut-il et peut-on refonder le droit du travail ?» Deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, il y a peu de temps, lorsqu'on disait que le Code du travail avec ses 3000 pages et quelques dissuadait l'embauche et était une des causes du chômage structurel dans notre pays, on se faisait traiter de populiste ou d'ultra-libéral. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui le dit, et puis vous avez l'air de le renforcer aujourd'hui, de le renforcer peut-être face à François Rebsamen qui lui dit le contraire.
Voilà, Antoine Liancan qui a écrit avec Robert Badinter Le Travail et la Loi chez Fayard est notre invité France Culture 8h01.